La sexe. Exploratrice. Avec Mel Trudel. La sexploratrice. Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice en compagnie de Louis et Mel.
Bonsoir.
Allô, allô.
Comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Bonne journée aujourd'hui pour moi sur la route.
Ouais,
bonne
journée
pour toi aussi.
Hein, ça... pas pire. Encore une défaite au décaqué, mais c'est pas grave. Un jour, on va finir par gagner.
En tout cas, tu me sembles en pleine forme. C'est le fun.
Top shape, certain.
Oui, c'est notre dernière de la saison, je pense, ensemble ce soir.
Oui. Oui, ben oui, oui, oui. Oui, parce qu'après ça, je me fais envoyer dans le mid avec M. Oui. Couture puis tout le kit.
Oui.
Fait qu'on va en profiter.
On va en profiter, certains. D'ailleurs, pour demain soir, ce sera le vendredi ouvert d'esprit. Et
oui.
C'est pas toi qui sera là, ce sera Yannick.
Yes.
Mais, mesdames et messieurs, partagez-nous vos histoires de dons, de voyance, de bon ce que vous avez déjà vécu. Et envoyez-nous ça à la sexploratrice à commercialradiox.com. Donc, ce soir... C'est un gros show pour ta dernière, Louis.
Oui.
On a du stock. On a deux invités ce soir. On a, tout d'abord, on a Olivier Tisdale, le fils de Jacques Tisdale, qui est décédé fort probablement d'une erreur médicale, de négligence également, fort probablement, et qui a également subi des... mon Dieu, des... Est-ce qu'on peut dire des sévices, en tout cas? On n'ira pas trop loin dans le terme. Bref, on va faire le tour du dossier parce que on veut des réponses et on veut aussi outiller les gens si ça arrive dans ça arrive actuellement de notre côté. Et juste en avoir à peine parlé dans une story, j'ai trois familles qui m'ont approché pour me dire « Hey, nous aussi, on a vécu ça, on a vécu ça, donc on va parler avec toi. » Tu vas nous dire, tu vas nous donner des trucs en fait de quoi faire si on a des doutes sur des trucs qui se sont passés, mais également ce qui s'est passé dans le cas de ton père. Ça a été très médiatisé, mais ici, dans La Sexploratrice, c'est la première fois qu'on en parle. Et on est également avec coach Cassandre, qu'on adore, qui est avec nous une fois par mois. Mm-hmm. Et qui sera avec nous lors de la prochaine saison, j'espère.
Mais on prie.
Oui, coach Cassandre qui est avec nous malgré, mon Dieu, une grosse journée de retrouvailles avec son amoureux de retour de 6 mois. Il était dans l'armée.
Oui, il est toujours dans l'armée.
Il est toujours dans l'armée.
Il est toujours vivant.
Toujours vivant.
Oui, ouais, mais il était sur un autre continent en déploiement pendant 6 mois. Fait que je suis... J'ai comme un glow. Là.
Mais oui, absolument. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et ce sera au retour de la pause qu'on va parler de la santé mentale chez les hommes, puisque le mois de juin est le mois de la santé mentale chez les hommes dans plusieurs pays. Alors, on va en parler ce soir. Pour revenir au dossier de Jacques Tisdale, j'imagine que tu en as entendu parler.
Oui,
aussi.
Évidemment.
C'est atroce. Ça n'a juste pas de bon sens. C'est inhumain. Je manque de mots, en fait, pour décrire ce qui s'est passé. Pour les gens qui ne savent pas, qui ne connaîtraient pas l'histoire, parce qu'on est également en live là, sur le TikTok de La Sexploratrice, si vous voulez voir nos invités, pour faire peut-être un recap, si on veut, des événements. Ça a commencé en 2020.
Oui, exactement. Écoute, ça commence en décembre 2020. Mon père passe un taco à l'hôpital de l'Enfant Jésus, un taco qui est prescrit par son pneumologue de l'époque, où on décèle un adénocarcinome in situ au niveau du poumon gauche, donc avec un suivi pneumologique à venir en janvier 2021. Mon père voit son pneumologue en janvier 2021 pour convenir, les deux conviennent ensemble qu'ils vont faire un suivi un an plus tard pour s'assurer que, soit si ça a progressé ou quoi que ce soit, le retirer. Le soigner ou peu importe, pour qu'au moins, rendu long, on s'assure que ça n'ait pas progressé ou que ça ne soit pas devenu plus étendu au niveau du poumon. Malheureusement, l'histoire va nous apprendre un petit peu plus tard que le suivi n'aura jamais eu lieu. Ça nous rapporte maintenant en mai 2024. Il n'y a pas déjà plus qu'un an aujourd'hui. Le 4 mai 2024, on reçoit une brique et un fanal, comme on veut dire, sur la tête le matin. Mon père, au début, obtient son congé de l'hôpital en disant « tout est beau ». Je vis pas avec mes parents, donc ma mère m'appelle, on pourrait-tu aller chercher ton père, il va sortir. Finalement, on me rappelle après, non, il sortira pas, ils ont décelé quelque chose. Écoute, on va descendre, on va le voir. À ce moment-là, tu es à l'hôpital Saint-François d'Assise. On se rend à l'hôpital, le médecin vient nous voir, puis il nous annonce la mauvaise nouvelle. Votre père a un cancer des poumons. On peut pas encore vous dire le stade, mais c'est dû à un nodule de 2021, 2020 en fait au taco, mais 2021. Là, on pose des questions. C'est une résidente, une docteur, une résidente de médecine familiale. Elle dit, très mal à l'aise, hein, je lui ai posé des questions, elle vient nous voir, elle dit, c'est parce que le dossier est tombé en deux chaises.
Ah!
OK. Question numéro 2. À ce moment-là, s'il avait été opérant, est-ce qu'aujourd'hui, s'il avait été opérant... Ouais, c'est ça, s'il avait été opérant en 2021, on serait pas là aujourd'hui. Puis ça, on l'apprendra plus tard dans le dossier, que tout le monde nous a confirmé un peu la même chose. Si mon père avait été suivi par son pneumologue en 2021... Probablement qu'aujourd'hui, vous puis moi, on ne se verrait pas. En tout cas, pas pour ces raisons-là.
Pour nous parler
on serait
de
peut-être
sa
pour
carrière,
d'autres choses.
Pour
exactement,
d'autres
mais pour autre chose, mais pas parce qu'il est décédé dans des circonstances dramatiques. Parce qu'on considère pour nous, pour la famille, que c'est dramatique. Parce qu'on s'est fait enlever mon père. Hein, on l'a empêché de se battre contre une maladie qui est cruelle, mais qui n'est pas inguérissable, malgré le fait que cette maladie-là fait peur. Mais c'est pas inguérissable. C'est pas vrai qu'il serait mort de toute manière, comme on nous a déjà répondu. Votre père serait mort pareil. Oui, mais on va tous mourir un jour. Mais pas peut-être de cette manière-là.
Et non seulement il a dû faire face à ce diagnostic mortel, finalement, mais en plus, lorsqu'il a été hospitalisé pour sa fin de vie, il a vécu des atrocités. Là. Et ma petite maman a vécu même pas le quart. Elle a vécu un mois pile à l'hôpital. Pas de douche, sans... Quand elle avait besoin de Tylenol ou des trucs comme ça, c'était hyper difficile d'en avoir. Elle n'a pas vécu le corps de ce que ton père a vécu et on avait de la difficulté à comprendre. On était vraiment fâchés là, de la situation. Là, toi, on peut le voir là, un peu partout là, en images sur les réseaux. C'est épouvantable. Comment est-ce qu'il pouvait... Je veux dire, c'est de la pure négligence. C'est clair, là.
Je vous dirais que pour une famille, le vivre, c'est incroyable. Si on n'image pas le dossier comme mon père nous a demandé de le faire, parce que vous savez, mon père, comme un vieux journaliste... Hein,
oui, ton père était journaliste.
Journaliste,
et
trois décennies à TVA, au fait divers. Il était au Journal de Québec, conseiller municipal à la Ville de Québec de 2005 à 2009. C'est quelqu'un qui avait une fibre journalistique incroyable. Puis il nous disait toujours, moi, il est trop tard. Mais les autres, il n'est pas trop tard.
Il était conscient de ça.
Puis il savait très bien, puis il disait, faut pas que ma mort serve à rien aujourd'hui. Puis je veux juste que vous reteniez ça. Moi, pour moi, j'ai été manqué, le système m'a échappé, le médecin m'a échappé. Je suis mal soigné actuellement. T'sais, à un moment donné, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien à faire. Parce que même si tu poses des questions, écoutez, il a fallu qu'on envoie une mise en demeure à l'hôpital de l'Enfant Jésus pour leur dire, écoutez, ça ne marche pas les soins aujourd'hui. Là. Le temps qu'on a pris pour
la
se
La mise
battre...
en demeure est envoyée pendant son
hospitalisation? Oui, pendant qu'il était à l'hôpital. Dans le fond, la mise en demeure est envoyée le 5 juillet 2024. On a rencontré un comité de soins le 9 juillet pour établir des soins minimum. Minimum. Quand on dit minimum, la même journée où on nous a dit qu'on rencontrait ce comité-là, on les a rencontrés. C'est plat ce que je vais dire là, mais la veille, j'avais fait avec un charpie des marques sur les pansements parce qu'on ne changeait pas ses pansements puis on ne changeait pas ses couches. Puis la coordonnatrice, quand on est rentré d'une fierté, me disait, vous allez être content, les pansements puis la couche ont été changés, hey, c'est
bravo.
Écrit dans le manuel. Ben, mon Dieu Seigneur, je suis un nouvel homme.
Une médaille.
Je suis un nouvel homme. Écoutez, vous avez fait votre travail, mais on va quand même aller voir. Hein, c'est pour que tout le monde puisse constater. Puis quand on est arrivé à la chambre, puis on se rend compte que finalement, ce qui a été vérifié la veille à 2h l'après-midi, on est rendu, je vous rappelle, 11h le lendemain, donc presque 24h plus tard. Mon père est encore dans sa couche plein d'excréments, plein d'urine, les pansements pas changés. Puis on nous dit qu'ils sont changés. Avec une certaine fierté, puis avec une certaine franchise, elle nous dit « Ah, c'est changé, il n'y a pas de problème, c'est écrit. » Oui, je dis « Parce qu'on a un problème, c'est pas fait. »
Ben voyons donc.
Tu sais, ça a été ça. Tout le long de sa maladie, tu sais, on changeait pas son lit. Quand il y avait du sang, parce que mon père saignait beaucoup des jambes, des fesses. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas une place du corps qui ne va pas saigner tellement il était irrité parce qu'on ne l'a pas lavé, on ne l'a pas soigné. On mettait un oreiller par-dessus la tache de sang, puis on le tossait à droite. Quand c'était à gauche, on mettait un oreiller à gauche, puis on le tossait à droite. C'était inévitable. C'était un calvaire qu'il vivait à tous les jours. J'avais du staff de mon équipe, on allait le voir ensemble. Les gars lavaient la chambre. On a une équipe à mon garage. Les gars lavaient la chambre. Tu sais, pour des êtres humains de notre âge, moi j'ai 45 ans, la moyenne à mon garage, c'était à peu près tout ça. De voir les gars les yeux pleins d'eau parce que, tu sais, Jacques, c'était l'ami de tout le monde. C'était l'ami au garage des gars. C'était comme un père pour eux. Puis de voir les voir, puis moi, pour moi encore, ça m'émue encore aujourd'hui, de voir les gars aller chercher des mops, m'aider à lever Jacques. Où ils changent, tu sais, mon père avait 74 ans, puis là, il nous regardait, puis on l'aidait à changer sa couche parce qu'il n'y a personne. On arrivait le midi, la nourriture, les panneaux fermés, les plats fermés, les deux bras. Mon père, il faut comprendre qu'il ne pouvait pas bouger ses bras. Ses bras avaient tellement enflé par la maladie qu'il était en position assise 24 heures sur 24. Il ne dormait pas couché parce qu'il s'étouffait. Donc, on laissait ces plats-là, puis on disait, ben, il ne veut pas manger. C'est parce que c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il peut pas. Ça a été compliqué tout au long de la maladie. Ça a été un calvaire pour lui, puis c'est triste de voir à quel point on peut dire de voir quelqu'un souffrir comme ça, mais il y en a d'autres.
Ben, je t'assure que sur le live TikTok en ce moment, il y a même quelqu'un qui mentionne, ben, en fait, ça fait deux personnes que je vais commenter qui travaillent dans des hôpitaux, puis il y en aurait beaucoup à dire. Et non seulement, en fait, dans ce cas-ci, dans le cas de ton père, puis j'imagine que c'est arrivé dans d'autres cas, il y a deux choses que je trouve épouvantables, c'est qu'il y a des documents qui ont été, comment dire, qui sont disparus, effectivement. Complètement disparus. Mais aussi des infirmières qui ont été suspendues pour vous avoir donné de l'information que vous auriez pas dû avoir.
Ça, c'est un autre point qui est inquiétant. Parce qu'on parle d'une institution publique, hein, on parle du CHU de Québec. C'est quand même une institution qui est gérée par nos gouvernements. Il y a des infirmières qui ont décidé de se lever pour dire, bon, écoutez, M. Tisdale, c'est vrai qu'il a été oublié. Hein, on a un système, nous autres, informatique, qui nous démontre que le pneumologue qui s'occupait de M. Tisdale, il n'a jamais fait la requête pour son TACO en 2021, puis il n'a jamais fait sa requête pour son suivi de pneumologie. Moi, je pense que ça, c'est un beau geste de la part d'une infirmière. Parce que faut pas juste dire, elle a commis, ah, elle a dépassé ce qui est écrit dans le petit livre au paragraphe 37, 6 et 5, là. Ce qu'elle a fait, c'est dire, écoutez, ça s'est passé en 2021. Ça se peut-tu qu'en 2025, ce que mon père aurait voulu d'ailleurs, on le fasse plus, ça, on n'oublie plus ces gens-là. Combien de gens qui m'ont écrit depuis le début, moi aussi j'ai été oublié, puis aujourd'hui encore, le même médecin m'a oublié ou un autre médecin m'a oublié. Mmh. Est-ce que c'est normal qu'un médecin nous oublie aujourd'hui pour un suivi qui est si important qu'un cancer? T'sais, on ne parle pas d'une radiographie pour une fracture sur un doigt. Même là, on ne devrait pas oublier personne. Mais là, on parle d'un oubli pour un cancer, quelque chose qui peut nous tuer, ça peut nous enlever la vie. Ça peut même, prime abord, nous enlever la chance de se battre dans un combat égal à égal. Malheureusement, mon père n'aura pas eu cette chance-là. C'est triste d'avoir ça.
C'est tellement triste. Puis en tant que famille, ça doit être hyper difficile. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est un combat de tous les jours que tu as entamé. Là, il y a une mise en demeure. Il y a même des... t'envoyer une mise en demeure de près de...
La mise en demeure actuellement est à 960 000, sur réclamation de 960 000. Il faut comprendre qu'on le réclame au CHU, au médecin, le pneumologue, médecin de famille, infirmière IPS. Ça, c'est la mise en demeure primaire. Voyez ce qui est là, c'est, je l'ai expliqué cette semaine dans une vidéo qu'on a faite. On a envoyé une mise en demeure en octobre 2024. Donc, ça fait presque maintenant 8-9 mois. Pas de réponse.
Aucune réponse.
C'est un peu la tactique du CHU de dire, on va éterniser. On va les écraser.
Dans l'espoir que vous laissez tomber.
Combien il y a de dossiers qui ont été annulés cette année? C'est 834 poursuites qui ont été abandonnées par des familles au Québec. Et parce que, justement, le processus est long et lourd. Et il faut se le dire, c'est cher, c'est dispendieux. Oui. Ça prend un expert, ça prend un avocat. Mais moi, j'ai dit au CHU, je suis peut-être petit, je suis peut-être tout seul. Je vais faire du bruit comme je peux. Vous savez, la vidéo qu'on a faite cette semaine, il est vu à 60 000 fois. On m'a dit, ouais, t'as pas peur qu'ils te poursuivent? Vous savez, on a rendu ce dossier-là public parce que c'est d'intérêt public. Mon père était une personnalité publique, donc maintenant, vivez avec l'erreur que vous avez faite parce que mon père, comme personnalité publique, a décidé de rendre son dossier public. Puis je suis persuadé que s'il est en haut aujourd'hui, puis il nous regarde, puis il va nous dire la même chose, même si on ne peut pas l'entendre, continuez à garder tout ça public.
Puis vous avez
public.
Des preuves aussi, oui. Je veux dire, vous ne faites pas de diffamation, vous faites pas de...
Je vous parlais tantôt, hier, on a une nouvelle découverte dans le dossier de mon père qui est assez incroyable. Vous savez, quand on va chez le médecin, on se fait prescrire anti-inflammatoire, pilule pour l'acidité ou peu importe. Les quatre dernières années, donc mon père devait être suivi en décembre 2021. Les années qui ont suivi, le pneumologue recevait un fax de la pharmacie pour y prescrire son Ventolin. Mars 2021, janvier 2022, janvier 2023, octobre 2023. Puis après ça, ben, malheureusement, en avril 2024, il était trop tard. Mais à chaque fois, il a retourné la prescription à la pharmacie sans jamais consulter mon père, sans jamais ouvrir une consultation. Sans jamais, parce que s'il avait ouvert le dossier, il aurait vu que mon père n'avait pas été suivi depuis 2021 puis qu'il y avait un adénocarcinome. C'est quand même pas rien. On a un début de cancer en 2021 puis les années passent. Le cancer peut grandir. C'est pas... Tu peux pas laisser quelqu'un dans l'oubli comme ça.
Mais surtout qu'il y avait un suivi prévu.
Exact.
C'est épouvantable. La famille, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en fait? Bon, oui, la mise en demeure, tout ça, là, mais qu'est-ce que, comme là, en ce moment-là, au travail, je sais que vous travaillez d'arrache-pied aussi pour pouvoir continuer le au garage et tout ça. Là. Je vois des annonces passer. Là. Vous êtes dans le jus, ça n'a pas de bon sens. C'est un beau problème.
On n'arrête pas bien.
C'est ça. Qu'est-ce que vous pourriez en fait donner comme conseils aux familles à qui ça arrive? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se rendre aux archives d'abord, aller chercher le dossier médical et ensuite aller chercher de l'aide avec des avocats?
Je pense que prioritairement, là, du vivant d'une personne, si vous savez que la personne est gravement malade, faites sortir le dossier médical. Puis on m'a appris quelque chose dernièrement. Faites sortir un dossier médical, mais intégral et non juste complet. Si on dit complet, on va avoir une partie du dossier médical. Si on dit intégral, on aura une autre partie avec le dossier médical.
Il y a quelques documents.
Exactement, parce que le dossier d'hospitalisation ne seront pas là. Mais vous savez, nous autres, dans le dossier, il y a eu des documents qui ont été un petit peu effacés pour pas qu'on les voit tout le temps. Fait qu'il a fallu travailler un petit peu plus fort pour aller les chercher. Mais quand même, faites sortir toujours le dossier médical, c'est important. Puis faites-le regarder par quelqu'un qui peut l'évaluer. Ça, c'est l'importance même. C'est le capital de tout ce que vous pouvez arriver. Puis je pourrais juste donner aussi un conseil aux gens. Baissez pas les bras parce que ça peut paraître long. Puis c'est vrai que ça peut être des procédures qui sont longues, mais dites-vous que la personne qui a souffert avant nous, comme moi, je prends l'exemple de mon père, ça vaut la peine de rendre tout ça public. Parce que c'est pas vrai qu'une institution publique comme notre système de santé peut toujours dire ben on va s'en laver les mains, puis les médecins ben sont pas imputables, les infirmières sont pas imputables, les infirmiers sont pas imputables. Puis on s'entend, on dit pas que c'est tout le monde qui travaille mal. Mais ceux qui le font mal devront répondre de leurs gestes.
Oui.
C'est ça qui est important aujourd'hui. Fait qu'abandonnez pas, puis vous pouvez même me texter sur mon Facebook ou quoi que ce soit, puis écoutez, ça va faire un an que je suis dans le combat, je suis peut-être pas le plus grand spécialiste, mais on le voit tous les jours maintenant, puis on sait qu'on commence à connaître le roulement de la machine. Puis il faut surtout pas se coucher devant le CHU. Je pense que c'est ça qui est important, qu'ils comprennent que les familles vont rester debout. Puis même s'ils veulent l'éterniser, je suis un gars qui est tenace, j'ai le même caractère que mon père. Puis je pense que je vais aussi le faire pour tous les prochains, pour pas que ça arrive, parce qu'on a l'intention de le continuer, ce combat-là, pour tout le monde. C'est mon père, quand avant de partir, mon père nous a dit « faites-le pour les autres ». C'est important. Faut pas que ma mort serve à rien. Puis ça, c'était mon père. Tu sais, il y a des gens qui m'ont écrit, c'était « ton père, c'est vrai qu'il était le même dans le temps ». Mon père, c'était un gentleman, c'était un journaliste qui était proche des gens, proche du peuple. Oui. Il n'aurait pas voulu que d'autres gens souffrent comme lui le soir.
Et comment Olivier arrive au quotidien là, à bien fonctionner? Parce que, bon, moi, personnellement, et ma sœur, on est allé à ta rescousse. Hey, aurais-tu une info par rapport à ça? Blablabla. Tu nous as conseillé. J'imagine qu'on n'est pas les seuls, comme tu dis. Il y a plein d'autres familles qui prennent conseil comme ça là, via les réseaux sociaux. Mais est-ce que tu arrives parfois à décrocher? Est-ce que j'imagine que depuis un an, là, c'est
pas évident de décrocher. C'est pas évident de faire un deuil parce que le deuil va se faire beaucoup plus tard pour nous. Je dis toujours, mon père va pouvoir partir quand ce dossier-là va être fini. Je pense qu'il est avec nous autres encore. Puis, tu sais, il se dit, je vais rester avec vous autres. Je suis pas mal certain qu'il est proche puis qu'il est à côté.
Est-ce que tu le sens? On va.
Ben, écoute, il y a des fois, je dis à ma mère, je comprends pas comment j'ai fait pour trouver ce document-là. Je pense qu'il m'a aiguillé vers là. Et des fois, je trouve un papier, je fais comme. Il peut être 2h30 du matin. Vous me demandez comment ça allait. On dort à peu près 2-3 heures par nuit. Il faut aller au travail le lendemain. Mes livres sont dans mon auto, mes livres de travail. Vous savez, les livres d'un dossier comme ça, ça a 6 pouces d'épais, puis j'en ai 4 ou 5 maintenant. C'est de la lecture, beaucoup. Là, à un moment donné, tu prends un break, puis c'est dans ta face. Tu fais comme, ah, pourquoi c'est là? Là, c'est là que je me dis, ben je pense que du haut, il y a quelque part, il y a une force qui dit, garde, fais ça, puis regarde ce document-là, c'est important, puis on le prend. Mais je pense que, tu sais, faut c'est pas quelque chose qui va se régler en un an ou deux. Mm-hmm. Mais par contre, je suis prêt à le faire, mais tu sais, c'est sûr que ça peut être épuisant des fois, mais
oui, faut juste continuer.
Puis j'ai la chance d'avoir une équipe incroyable qui travaille avec moi au garage parce que les gars, tu sais, ils sont patients avec moi parce que des fois, ils savent que je suis pas là. Faut rencontrer les avocats, rencontrer le coroner, rencontrer un commissaire.
C'est presque un deuxième travail temps plein, là.
C'est entre 8 et 9 heures de plus par jour à travailler dans le dossier. L'avoirbie publique, il faut comprendre que j'essaie de répondre aussi à tout le monde. On est rendu à, je pense, une dizaine de mille courriels textos qu'on a reçus depuis juillet 2024, l'année passée. J'essaie de toutes les traiter, mais c'est sûr que des fois, c'est un petit peu plus long. Mais je veux que tout le monde soit quand même bien protégé puis que le monde prenne conscience. Puis vous savez, c'est aussi pour ça que ce dossier-là est public. C'est pour ouvrir le chemin aux autres. Il y aura d'autres, puis des gens qui disent d'aide, mais on ne veut plus qu'il y en ait. Mais s'il y en a d'autres, bien, le chemin va être ouvert puis la bonne procédure à prendre va le faire. Puis je pense que c'est un message qu'on lance aussi au gouvernement. Laissez pas tomber les familles. Il y a des gens qui sont encore là. Après moi, ma mère est encore là, je suis encore là. Ma mère était mariée depuis une cinquantaine d'années avec mon père. Tu sais, c'est une relation d'amour. Voir partir son mari comme ça dans la souffrance, dans la misère humaine, c'est atroce.
Et la vision de la mort pour ton père, c'était, est-ce qu'il était serein face à ça? Ou?
Vous savez, on peut jamais dire... Mon père voulait vivre. Mon père voulait se battre pour vivre. En rencontrant le coroner, c'est une phrase qu'on a eue ensemble. Pourquoi il ne se serait pas battu sur un cancer de stade 0 en 2021, alors que quand il a appris la nouvelle d'un stade 4, il dit « on y va all-in ». Les traitements de chimio, l'immunothérapie, sachant très bien qu'il y avait un risque pour lui, mais il dit « le risque, je le prends parce que je veux vivre ». On s'est fait une petite vidéo un soir ensemble, parce qu'on était très proches. Puis « je veux vivre encore au moins 100 ans ». Après, le running gag était là. Il dit au moins 20 ans encore, ça serait le fun. T'sais. Mon père, c'était ça. Il voulait se battre. Il avait un caractère incroyable. C'était un homme qui était très grand, très costaud. Il avait une force, puis il voulait se battre, puis il voulait vivre. Mais on lui a enlevé son droit de vivre, malheureusement.
Ouais. On va vous souhaiter beaucoup de bonheur d'abord avec la famille de l'énergie positive par rapport à tout ça. On va vous souhaiter que ça se règle. Et que vous receviez au moins des excuses. Parce que là, jusqu'ici, il n'y a eu aucune excuse de personne.
On n'a jamais rencontré personne depuis la mort. Vous savez, même les infirmiers et les infirmières qui se sont occupés de mon père le matin du décès de mon père, quand on est allé l'identifier, parce que comme c'est une mort inattendue, il fallait se rendre à l'hôpital puis l'identifier. Aucune infirmière, aucun chef de plateau, aucune infirmière, seulement un oncologue qui est venu nous donner ses sympathies parce qu'il n'y avait pas le choix, parce qu'il fallait qu'il vienne nous rencontrer. Mais jamais les infirmiers de plancher ou infirmières de plancher sont venus nous rencontrer pour dire, vous savez, on est désolé de la situation ou quoi que ce soit. On aurait aimé savoir ce qui s'est passé dans les dernières heures de sa vie. On aurait aimé ça être appelé parce qu'on nous disait, on le voit aux 15 minutes. Donc, s'il y avait quelque chose qui allait pas, on l'aurait su forcément. Donc, on croyait pas l'histoire, mais on aurait aimé ça pouvoir être là, à cette partie-là, parce qu'il faut comprendre que la nuit, on allait se coucher de temps en temps aussi, parce qu'il faut quand même récupérer. Il n'y a pas eu d'empathie. Malheureusement, de la part de personne, ni du CHU, ni des infirmiers, des infirmières, médecins, peu importe. C'est ce qui est malheureux, je pense, dans tout ça. Jamais personne n'a pris le temps de venir nous regarder dans les yeux et dire « C'est désolant ce qui est arrivé. Là. On va tout faire pour plus que ça se reproduise. On sait que vous avez une procédure avec nous. On le sait qu'il y a des avocats dans les dossiers, mais sachez qu'on est avec vous et qu'on va faire à l'avenir que ça se produise. »
C'est incroyable. Nous, au contraire, on a eu la chance d'avoir cette empathie-là de la part de la résidence où ma mère est décédée à peine quelques heures, durant sa première nuit, en fait, mais de la part de l'hôpital, jamais. Rien. Même c'est le malheureux. Coroner n'a toujours aucune nouvelle parce que l'enquête du coroner est en cours dès le début. Là, c'était, c'est même pas nous, en fait, ça nous a été imposé. Et ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens.
C'est inimaginable.
J'ose même pas imaginer tout ce que vous avez traversé. Nous, ça fait que 6 mois, puis on est comme dépassés. Puis c'est ça, tout au long de l'entrevue, je suis un peu comme... Je suis remplie d'émotions, puis j'ai de la misère à trouver les bons mots. Là. Je suis vraiment désolée. Mais je vous trouve fort et j'admire votre force, votre courage. J'espère qu'on va en avoir autant de notre côté. Puis vous êtes inspirant.
On est là s'il y a quelque chose. Puis tu sais, je le dis à toutes les gens, gênez-vous pas pour continuer à nous écrire. La minute que je peux vous répondre, ça va nous faire plaisir. Des fois, c'est juste une question. Bien, on l'a traversé en ce moment, puis ça fait un an qu'on l'a traversé. On a quand même un grand bout de chemin de fait pour en arriver à une procédure qui va peut-être arriver vers l'automne. Mais actuellement, on a un beau grand bout de chemin de fait.
Ouais,
puis on a eu la chance d'être bien guidé. Donc, si vous avez des questions, des fois, gênez-vous pas. Puis je pense que c'est ce que mon père aurait voulu. Qu'on continue à vous aider, puis on coûte rien. Un texto, ça coûte rien, puis ça va me faire plaisir de vous répondre, puis je vais prendre le temps de le faire.
Via la page Facebook idéalement, exact, Messenger, exact, Olivier Tézel directement.
Exactement.
Merci beaucoup de vous être déplacé ce soir, en bonne
plaisir.
Compagnie aussi, merci. Et on va souhaiter que ça se règle et que c'est ça, que d'autres familles ne passent pas par ce chemin-là.
Merci à vous de donner la chance
sympathies aussi.
À mon père d'être encore entendu une fois avec vous. C'est grâce à vous, si nous aussi on est rendu là.
C'était tellement un bel humain, on a eu la chance de suivre à l'époque. Louis, peut-être moins, par exemple.
Mais... Ouais, un peu moins.
Merci beaucoup, Olivier Tézel. Donc, on vous rejoint là, via les pages Facebook, Messenger, les réseaux sociaux et tout ça. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Merci à vous.
Merci, chers auditeurs. Restez avec nous puisqu'au retour de la pause, on parle du mois de la santé mentale chez l'homme. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.